Lorsque Dieu leur eut fait connaître tous ses décrets, pour qu'on ne l'état pas responsable de leur méchanceté future, il les sema, les uns sur la terre, les autres dans la lune, les autres dans tous les autres instruments du temps. Après ces semailles, il confia au jeune Dieu le soin de façonner les corps mortels, de compléter leur œuvre en ajoutant tout ce qu'il fallait encore ajouter à l'âme humaine et tous les accessoires qu'elle exigeait. Puis de commander et de gouverner, aussi sagement et aussi bien qu'il le pourrait, cet être mortel, à moins qu'il ne fût lui-même la cause de son malheur. Après avoir réglé tout cela, le Dieu reprit le cours de son existence habituelle. Tandis qu'il gardait le repos, ses enfants, qui avaient saisi l'organisation que projetait leur père, s'y conformèrent. Ils prirent le principe immortel de l'animal mortel, et, à l'imitation de l'artisan de leur être, ils empruntèrent au monde des parcelles de feu, de terre, d'eau et d'air, qui devaient lui être rendues un jour. Les unir ensemble, non par des liens indissolubles, comme ceux dont eux-mêmes étaient liés, mais par une multitude de chevilles invisibles à cause de leur petitesse, et, en les assemblant ainsi, ils composèrent de tous ces éléments un corps unique pour chaque individu. Et dans ce corps, sujet au flux et au reflux, ils enchaînèrent les cercles de l'âme immortelle. Mais, enchaînés dans ce grand flot, les cercles ne pouvaient ni le maîtriser, ni être maîtrisés par lui. Mais tantôt ils étaient entraînés de force, et tantôt l'entraînaient. De sorte que l'animal tout entier se mouvait, mais avançait sans ordre, au hasard d'une manière irrationnelle. Soumis à tous les six mouvements, il allait en avant, en arrière, puis à droite et à gauche, en bas et en haut, et il errait en tous sens suivant les six lieux. Car si violent que fut le flot qui, apportant la nourriture au corps, le submergeait et refluait ensuite, plus grand encore était le trouble causé par les impressions des objets qui le heurtaient, quand, par exemple, le corps d'un individu venait se choquer contre un feu étranger, extérieur à lui, contre une terre dure, contre les eaux glissantes, ou qu'il était assailli par une tempête de vent poussée par l'air, et que les mouvements dus à toutes ces causes allaient en traversant le corps jusqu'à l'âme et la heurter. C'est pour cela que tous ces mouvements furent ensuite et sont encore aujourd'hui appelés sensations. En outre, comme ces sensations, au temps dont je parle, produisaient sur le moment une ample et violente commotion, en se mouvant avec la masse qui ne cesse de s'écouler et en secouant fortement les cercles de l'âme, elles entravèrent complètement la révolution du même, en coulant au rebours d'elle, et l'empêchèrent de commander et de suivre son cours. Elles troublèrent aussi la révolution de l'autre, en sorte que chacun des trois intervalles du double et du triple, et les médiétés et liens d'un plus un demi, d'un plus d'un tiers, d'un plus un huitième, ne pouvant être complètement dissous, sinon par celui qui les a noués, furent au moins tordus de toute manière et produisirent dans les cercles toutes les cassures et toutes les déformations possibles. Il en résultait qu'à peine liés entre eux, ils se mouvaient, mais ils se mouvaient sans loi, tantôt à rebours, tantôt obliquement, tantôt sans dessus-dessous, comme un homme qui se renverse en posant sa tête sur le sol et lançant ses jambes en l'air, en les appuyant contre quelque chose. Dans la situation où cet homme se trouve par rapport à ceux qui le voient, la droite paraît être la gauche, et la gauche la droite à chacun d'eux. C'est la même confusion et d'autres du même genre qui affectent gravement les révolutions de l'âme. Et lorsque ces révolutions rencontrent quelque objet extérieur du genre du même ou de l'autre, elles donnent à cet objet le nom de même et d'autre, à l'encontre de la vérité, et elles deviennent menteuses et folles. Et il n'y a plus alors parmi elles de révolutions qui commandent et dirigent. Par contre, lorsque les sensations venant du dehors se jettent sur ces révolutions et tombent sur elles et entraînent après elles tout le wagon qui contient l'âme, ces révolutions, quoique maîtrisées, paraissent avoir la maîtrise. Par suite de tous ces accidents, aujourd'hui comme au début, l'âme commence par être dénuée d'intelligence, quand elle est enchaînée dans un corps mortel. Mais lorsque le courant, qui apporte la croissance et la nourriture, diminue de volume, que les révolutions, revenant au calme, suivent leur propre voie et deviennent plus stables au cours du temps, à partir de ce moment, les révolutions se corrigent, suivant la forme de chacun des cercles qui suivent leur cours naturel. Elles donnent à l'autre et au même leur nom exact et font éclore l'intelligence chez leur possesseur. Si cette disposition est fortifiée par une bonne méthode d'éducation, l'homme devient complet et parfaitement sain, et il échappe à la plus grave des maladies. Si au contraire, on a négligé son âme après avoir mené une existence boiteuse, il retourne chez Hadès, imparfait et insensé. Mais ceci n'arrive que plus tard. Il faut revenir à notre sujet présent et le traiter avec plus de précision. Attachons-nous à la question préliminaire de la génération des corps, partie par partie, et voyons pour quel motif, et en vertu de quelle prévoyance, les dieux ont donné naissance à l'âme en nous tenant aux opinions les plus vraisemblables. Car c'est ainsi, et suivant ce principe, que doit marcher notre exposition.